La fugue bouscule chaque année la vie de centaines d'adolescentes et d'adolescents au Québec. Désir de changement ou expression d'un mal-être, elle laisse les adultes entourant ces jeunes aux prises avec un sentiment d'impuissance, de solitude et parfois de honte. On l'associe instinctivement à des risques, mais elle est pourtant loin de se résumer au danger. Ce balado met en lumière ce qui pousse des jeunes à partir et ce que ça fait vivre à leur entourage. Il propose des réflexions pour mieux comprendre et intervenir. Dans ce premier épisode, nous écoutons Karine raconter comment elle a accompagné son fils Théo à travers les tumultes de l'adolescence. Cynthia, Lolo et Mike reviennent sur leur errance et sur ce qui leur a permis de s'ancrer finalement. Les mots bienveillants des intervenants œuvrant auprès des jeunes en fugue et de leurs parents ouvrent quant à eux une porte vers l'espoir.
Je me sentais vraiment toute seule. Je me sentais isolée, moi aussi, dans ma banlieue, finalement. Tu sais, je me suis enfermée en voulant donner le meilleur de moi et le meilleur d'un environnement à mon gars. Mais finalement, je me suis enfermée un peu dans une cage dorée qui m'empêchait d'être lucide et de mettre le mot « fugue » sur un garçon de 14 ans qui part 3-4 jours, des fois une semaine, sans que je sache où il est.
Au début, j'appelais ma mère en confidentiel pour lui dire « je suis en vie ». Ça me faisait mal un peu, ça me faisait de la peine parce que je voyais qu'elle avait vraiment beaucoup de peine de pas savoir ce que ton enfant va, de pas savoir comment ton enfant se débrouille, c'est difficile. Là, on pense qu'il est dans un coin de rue, qu'il est tout seul, qu'il a faim. C'est sûr que c'est inquiétant. Je me dis, si mon fils, il fait comme moi, ça va être vraiment difficile, mais je pense que je vais avoir les connaissances quand même par rapport à pourquoi il fugue. Il veut se faire entendre, peu importe de quelle manière, il y a quelque chose qui va pas, puis au lieu de punir, de pointer du doigt ou d'essayer de trouver à sa place, juste vraiment de le laisser, je vais essayer vraiment de le laisser comme m'expliquer qu'est-ce qui va pas.
Ça doit probablement être très dur pour un parent. En fait, je veux dire, je peux pas l'imaginer à quel point ça doit être dur, cette ligne-là, cet équilibre-là entre t'as une certaine autorité sur ton enfant, mais t'as un lien de confiance aussi qui est là avec ton enfant.
Ben moi, je m'appelle Cynthia. Moi, j'étais, dans le fond, vraiment une professionnelle de la fugue. J'ai fugué à maintes reprises, pour vrai, jusqu'à peut-être 40 fois par placement en centre jeunesse. J'avais 14 ans. Je venais tout juste d'avoir 14 ans quand j'ai fugué la première fois. Je suis allée chez une amie que je connaissais pour voir si elle était là. Puis, heureusement, elle était là. La plupart de mes fugues, je les ai faites chez des amis, donc vraiment que je connaissais déjà. Donc un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fugué avec une personne que je connaissais du centre, et elle m'a dit « Ah, mais non, mais on va aller voir mes amis en premier ». Je connaissais pas les gens chez qui j'étais. C'était pas le genre de situation dans laquelle j'aurais dû me mettre. Ben il y avait un chien dans l'appartement, puis j'ai passé la nuit avec le chien. J'étais comme « Non, mais moi, je reste avec le chien, c'est bon, là, le matin ». Dans le fond, il y a une personne qui a appelé pour de la pizza, et au lieu d'avoir de la pizza à la porte, c'est la police. Fait que j'étais contente que la police cogne à la porte au lieu de la pizza. Je dirais que j'étais surprise, mais je me sentais comme libérée parce que j'étais comme... Je sais même pas comment je serais retournée chez nous, là, ou au centre ou whatever. Fait que, ouais.
C'est flou, ma première fugue, là. Je m'en souviens à moitié, là. Je sais juste que je partais avec une jeune, puis je paniquais un peu parce que... Ouais, j'étais comme un peu perdue, là. Puis cette première fugue-là, c'est ça. Ça a été la moins longue parce que j'étais trop paniqué, là. Déjà, t'es au centre, t'es plus libre, tu fugues, tu vis ta liberté. Fait que quand tu y retournes, c'est comme si tu rentrais dans un mur, là. Non seulement tu perds ta liberté, mais tu t'ennuies des gens qui t'étaient, là. Je veux dire, moi, je m'ennuyais de mes amis, là. J'avais hâte de les revoir, puis je pouvais pas les appeler comme je voulais, là. Fait que... Il y a aussi ça, là, qui m'a poussé à refuguer, là, parce que je m'ennuyais de ces gens-là. Je m'appelle Mike, j'ai 23 ans, j'habite à Montréal, puis j'ai fugué pendant presque 2 ans des centres jeunesse. Ben c'est ça, je suis reparti une autre fois. Cette fois-là, je suis parti comme vraiment quelques mois, là, je suis parti vraiment longtemps. Je suis resté avec mes amis un bout de temps, puis à un moment donné, je suis parti juste avec une de mes amies, on est allé chez quelqu'un. J'étais en train de refaire ma vie là-bas, veux pas, là. J'étais en consommation, mais J'avais un toit à tous les jours et je pouvais manger à tous les jours si j'en avais envie. Là. Mathilde Gon, on ne connaissait pas vraiment. C'est ça. C'est, je pense que j'étais tellement habituée d'être en fuite que j'ai comme enlevé ma méfiance. Là. Puis ça, il faut pas faire ça. Puis ben c'est ça. La personne, c'était pas une très bonne influence. Là. J'ai vraiment craché dans la consommation. Puis le gars, il voulait qu'on se prostitue puis tout. Là. Je veux dire, ça aurait pu aller loin. C'est ça, j'ai dit, c'est, faut jamais perdre la méfiance, là. Fait que, quand j'ai eu rendez-vous avec mon beau-frère, instinctivement, on dirait que je savais qu'il allait me ramener au centre, mais j'étais comme, on dirait qu'il fallait que j'y aille quand même, là, tu sais, en sachant qu'il allait probablement m'amener, c'était sûr, là, tu sais. Mon beau-frère savait pas où j'étais puis ce que je faisais, là, ça faisait vraiment, vraiment longtemps que j'étais parti puis je donnais plus de nouvelles, là, à personne. Je pense que ça l'a inquiété un peu, là. Puis je t'allais le rejoindre, puis c'est ça. C'est lui qui m'a ramené au centre cette fois-là. Là, j'étais pas très content, mais en même temps, ça a fait du bien. Sauf que je me suis retrouvé en intensif à Notre-Dame-de-Laval. Puis là-bas, ben j'ai décidé que j'allais en thérapie. Puis en sortant de thérapie, je suis retourné au centre. Puis à la seconde où je suis retourné au centre, j'ai refugié une autre fois. Puis cette fille-là, elle a été jusqu'à mes 18. Où j'ai été pas mal dans le village tout le long, mais j'habitais près du métro Frontenac. Mais t'sais, encore là, on était très autonomes, là. On habitait à côté de l'épicerie, fait qu'on allait à l'épicerie assez régulièrement. Sinon, on allait dans les ressources. Des fois, les ressources, ils donnent des take-out. Fait qu'on pouvait aussi prendre ces take-out-là puis les amener à la maison. Fait que ça nous faisait de la bouffe en plus. Je pouvais voir mes amis comme je voulais, mais j'ai aussi créé d'autres liens. En étant dehors, en fuite, ce qu'on n'a pas vraiment dans un centre jeunesse, là.
Fait que j'ai été itinérant pendant comme 2 semaines environ. Je crachais chez des amis, je dormais dehors avec un autre de mes amis à qui ça allait très mal avec sa famille. On a dormi quelques fois, plusieurs fois dans un parc. Ben, dans pas nécessairement le même, là. On dormait un peu n'importe où, genre. Mais oui, ça arrivait plusieurs fois qu'on a dormi dans un parc à côté de l'école parce qu'il y avait de l'école pendant ce temps-là, puis on y allait quand même. J'avais pas d'autre chose à faire, puis je voulais vraiment finir en même temps que tout le monde. Tu sais, pour moi, genre, finir en retard, c'était comme... ça faisait pas partie de mes plans à la base. Tu sais, quand tout le monde finit son secondaire, puis pas toi, tout le monde passe à d'autres choses, ils vont au cégep. Fait que bref, c'est pour ça que je continuais à aller à l'école, genre. Moi, c'est Lolo. Présentement, j'ai 22 ans. Sur le moment, c'est comme... un poids de moins, genre. Je sais pas comment dire. C'était complètement genre... Wow, OK, je suis libre, pas de problème, là, genre. C'est moi qui m'occupe de moi, puis mon ami en tant que tel, puis... Il y avait juste pas d'autres problèmes. À certains points, c'était le fun au début, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, c'est ça, il fait froid, puis dans la rue, c'est pas toujours... genre dans le parc vers 1h dans un schlag, c'est pas ça se peut qu'il y ait un craquette qui te court après là. Puis ça c'est arrivé aussi, mais je dirais sur le moment c'est ça, sur le moment délivré que je me suis senti. Puis par la suite, ben c'est sûr, j'ai commencé à me sentir de plus en plus comme petit et démuni, genre comme désarmé, je sais pas quoi dire. Je faisais juste comme errer majoritairement du temps entre des gens ou entre comme on va manger ou on fait quoi, je sais pas.
Moi, c'est Jonathan Paradis. Je travaille à l'organisme communautaire En Marche du 17 et je travaille tout particulièrement sur différents projets en concertation avec les centres jeunesse de Montréal. Pour les fugues, ça se passe toujours un petit peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître un cycle de la fugue. Donc, les jeunes vont passer dans différentes étapes pour arriver à la fin d'une fugue. La première étape de la fugue, c'est toujours ce qu'on appelle la lune de miel. Donc là, à ce moment-là, le jeune est vraiment très, très content. Tout est positif. Peu importe c'était quoi la raison de sa fugue, probablement qu'il a réussi à aller chercher ce qu'il voulait assez rapidement. Les problèmes d'avoir un endroit où vivre ou ben pour manger, des choses comme ça, c'est quand même facile, mettons, dans les premières heures, les premiers jours, à y répondre à leur manière. Donc, il y a cette période-là de lune de miel. En tant qu'intervenant, en tant que parent, c'est pas le moment de faire réfléchir le jeune puis de lui dire qu'il serait donc bien mieux de retourner à la maison ou au centre. Il est juste pas là, il sera pas réceptif. Donc à ce moment-là, le plus important, c'est vraiment de, bon, pour les parents, par exemple, de garder le lien actif. La deuxième étape qu'on voit, c'est l'étape qu'on appelle réflexion ambivalence. Pour passer à cette étape-là, le jeune doit vivre des éléments un peu plus négatifs dans sa fugue. Donc là, il va commencer à avoir faim. Avoir faim pendant 2-3 jours, c'est pas si pire. 2-3 semaines, ça devient plate un petit peu. La même chose pour le froid, la même chose pour toutes les relations qui sont coupées, mettons, avec les parents, les amis, qui, eux, continuent leur vie, des choses comme ça. Donc, tout ça va amener le jeune dans un endroit plus d'ambivalence, où là, il va être prêt à réfléchir avec nous sur sa situation. La première réflexion, ça va être, bien sûr, est-ce que je rentre ou est-ce que je reste en fugue? Ça, on peut l'accompagner là-dedans. L'objectif est vraiment de dire qu'on comprend que le jeune a des besoins puis que c'est complètement valide, mais le moyen utilisé, la fugue, c'est peut-être pas le meilleur. On pourrait peut-être voir pour en développer des nouveaux avec lui. Pour l'étape d'ensuite, la troisième étape, c'est vraiment quand le jeune a pris la décision que là, il voulait rentrer. Notre travail, là, à ce moment-ci, c'est de l'accompagner, en fait, pour que ce retour-là se passe de la meilleure manière possible ou en tout cas de la manière que lui s'attend à ce que ça se passe. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment important de préparer le retour puis de s'assurer que le jeune sache à quoi s'attendre, parce que si ça se passe pas comme il voulait, ben là, la relation de confiance vient d'être brisée, puis on s'en ira pas vers une fin de fugue, malheureusement, on pourrait recommencer le cycle. Et pour la dernière étape, ça va être bien sûr soit le retour dans le milieu d'origine, ou bien dans un autre milieu qui répond mieux à ses besoins. Le cycle de la fugue peut recommencer plusieurs fois, puis entre autres, la première étape de lune de miel peut alors là durer beaucoup plus longtemps, parce qu'avant que ça soit dérangeant, mettons, d'avoir faim ou d'avoir froid, ça va être beaucoup plus long. Donc avant de tomber dans la réflexion, l'ambivalence, ça va être plus long. Et puis là, c'est comme dans ce cycle-là, quand ça devient de plus en plus long, qu'on tombe dans des fugues répétitives et des fugueurs chroniques, par exemple.
Moi, j'ai des souvenirs de moi qui se prépare des sacs de linge, puis qui part avec mon backpack, puis qui s'en va dormir chez des amis, puis qui trouve tout le temps une excuse. Tu sais, je suis autant en train de mentir, en fait, à ma mère que je mens aussi à les parents de l'ami chez qui je m'en vais dormir.
Le symbole du sac, c'est très fort, là. Alors qu'il venait de revenir parfois le matin, il dormait un peu, puis en fin d'après-midi, je le revoyais faire un sac et repasser dans la cour avec son gros sac gonflé. Plus le sac était gros, plus je savais que ça allait être plusieurs jours.
Salut, moi c'est Théo. J'ai 22 ans. Je suis le fils de Karine ici à mes côtés.
Et moi je m'appelle Karine et je suis la maman de Théo. J'étais moi aussi complètement dans une perte de repères. Parce que j'ai beau avoir une maison avec un terrain puis une piscine, ça achète pas le relationnel, puis ça achète pas, ça ne rachète pas surtout la complicité puis le quotidien que j'avais avec lui tout le long de son primaire. Là, j'avais en face de moi un adolescent que je reconnaissais pas, intoxiqué, qui venait à la maison simplement pour faire défaire un sac et repartir. Je ne sais où.
Mais moi, à l'adolescence, je pense que ça a été rough, ça a été rushant sur beaucoup de points. Fait que, tu sais, j'étais arrivé à l'âge de 12 ans, puis déjà, j'avais envie de goûter à toutes les substances, puis à expérimenter tout ce qu'un adolescent a envie d'expérimenter à ce moment-là, tu sais. Puis, je pense que je me cherchais beaucoup. Je trouvais pas nécessairement ma place, puis justement, à ce moment-là, quand t'es dans la consommation, tu deviens un peu avec un tunnel vision, tu vois seulement une chose, en fait. T'as seulement envie d'une chose, puis c'est de retrouver ta consommation. Puis moi, je pense que j'étais en recherche aussi d'indépendance puis d'autonomie. Puis qu'à ce moment-là, j'avais envie de prouver que j'étais déjà un adulte, puis que j'avais déjà envie là de mener ma vie comme ça me tentait.
Chez Théo, il y a toujours eu une recherche de l'extrême. Donc, il explique très bien son désir de pousser les limites, d'être constamment dans l'adrénaline, dans l'intensité, dans une recherche de plus. Puis ça concordait avec malheureusement des changements d'environnement, c'est-à-dire que la maison qu'il avait toujours connue à Montréal, tout d'un coup, était catapultée sur la rive sud. Et en même temps, il faisait des allers-retours presque à tous les ans chez son père à Gaspé. Donc, l'éclatement, la recherche identitaire, mais l'éclatement géographique de Théo, je pense aussi, a contribué à cette perte de sens-là qui souhaitait probablement noyer dans la consommation. Moi, croyant bien faire, je lui offrais une maison avec une piscine en banlieue parce que c'était, ça a été longtemps notre rêve. Fait que quand est arrivée l'adolescence et que je lui ai offert finalement un lieu qui, à mon sens, était sécuritaire, il a tout balayé du revers de la main pour être là le moins possible. Fait que c'est ça un peu qui s'est passé. Donc, je me suis retrouvée coupée en quelque sorte de mon fils, parce que les amis qu'il côtoyait, je les connaissais pas. Le réseau qu'il est en train de construire, je le connaissais pas du tout. Et en plus, il consommait des choses qu'il me disait pas qu'il consommait. Je le voyais bien. On en parlait quelques fois, mais j'ai compris par la suite que j'avais accès juste à la pointe de l'iceberg. J'étais désemparée, en fait. Parce qu'on connaît pas ça. Je parlais presque pas de ça à son père parce que je voulais pas l'inquiéter. Je parlais encore moins de ça à ma famille. Ben, j'étais dans le déni. Ce que je savais faisait déjà suffisamment mal pour que j'aille pas plus loin. Je pouvais pas imaginer apprendre autre chose. Je me souviens à cette époque-là qu'à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, c'était un coup au cœur. Terrible.
C'est très important de travailler avec les parents afin de sécuriser les parents parce que ça amène tellement d'inquiétude quand un jeune quitte la maison et qu'on ne sait pas où il se trouve. Je m'appelle Chantal Izotte, je suis directrice générale de l'Antichambre 12-17, qui est un hébergement d'urgence pour les jeunes de 12 à 17 ans à Salaberry de Valleyfield. C'est des situations qui sont extrêmement difficile à vivre comme parent. Et tout dépendant de la longueur de la fugue, c'est sûr que même si c'est extrêmement difficile, je trouve que c'est super important de prendre soin de soi durant ce temps-là pour être dans les meilleures conditions possibles lorsque le jeune va revenir à la maison. Donc, j'encourage les parents à aller chercher du soutien, à bien répondre à leurs besoins de base, de contacter des organismes qui vont pouvoir les aider à se préparer pour le retour du jeune, puisque c'est crucial, c'est de pas s'oublier, puis de prendre soin de soi pour être capable de bien réaccueillir le jeune. Quand on est épuisé, puis qu'on n'en peut plus, puis que le jeune revient, mais on n'est pas dans les meilleures conditions pour rétablir la situation.
Toutes les émotions qu'un parent vit pendant la fugue de son enfant sont tout à fait légitimes. Premièrement, je pense que le plus important, c'est d'avoir un réseau de soutien autour. Donc, les proches, les amis peuvent jouer ce rôle-là. Dans le cas où il n'y a pas ce réseau-là d'accessible, c'est là, je pense, que les organismes communautaires peuvent entrer en ligne de compte et offrir des services. Souvent, c'est des lignes téléphoniques pour parents. Il y a des groupes aussi qui peuvent se faire où des parents peuvent rencontrer d'autres parents qui vivent des problématiques similaires avec leur adolescent. Et ça aide en fait à ne pas se sentir seul dans la problématique vécue, de sentir qu'on a du soutien autour de nous.
Non, je pense que j'avais honte. Je pense que de nommer le mot « fugue », ça voulait nécessairement dire aviser des intervenants externes, la police, le C3S. Il y avait une ligne d'urgence que le C3S m'avait remis à un moment donné, une ligne directe quand on n'a pas de nouvelles de notre enfant ou quand on est inquiet pour sa consommation. J'ai toujours refusé d'utiliser cette ligne-là. Comme si à partir du moment où j'allais appeler quelqu'un d'externe à notre famille et que je nommerais, par exemple, que je ne sais pas où se trouve mon garçon à l'heure actuelle et que j'aurais eu à répondre à des questions très concrètes du genre, est-ce que vous savez s'il consomme, nommez-moi deux amis, un numéro de téléphone pour rejoindre le parent X. À partir du moment où toute cette mécanique externe se met en branle, j'avais l'impression que j'allais me faire juger, que je suis une mauvaise mère, qui est pas capable de savoir où se trouve son fils, qui est pas capable de le retenir à la maison, de lui donner des conséquences. Je vivais à cette époque-là un grand sentiment d'impuissance et j'avais surtout pas envie de me faire juger ou dire quoi faire par des personnes à l'extérieur de la situation familiale.
Rapidement, nous est venu le besoin de travailler avec les parents parce qu'on se rendait compte justement que les jeunes, quand ils venaient dormir en marge le lendemain matin, bien souvent voulaient contacter soit les centres jeunesse, soit leurs parents. On a commencé à développer ce volet-là qui était dédié aux parents des jeunes qu'on accueille, mais aussi à tout autre parent qui pouvait avoir besoin de soutien, d'accompagnement, puis d'outils. Je m'appelle Anne Charpentier, je suis coordonnatrice de l'intervention pour l'organisme En Marge 12-17. Nous, on se positionne pas, c'est vraiment eux les acteurs qui connaissent le mieux leurs jeunes. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est de les aider à réfléchir à ce qu'ils ont besoin puis à ce qu'ils désirent. Je pense qu'il y a quelque chose de très important dans être présent au moment où le parent a besoin qu'on soit présent parce que c'est ça qui est important, c'est le premier contact. Et bien souvent, le parent, oui, veut des outils, mais se trouve aussi des fois dans une situation de crise. Donc, je pense que la première chose qu'En Marge peut faire, c'est d'entendre, d'écouter et de recevoir.
Pour les parents, ça peut être difficile, mais ma mère, de son côté, elle avait commencé à plus faire attention à ses réactions, de faire attention à ses commentaires ou à ses, ce qu'elle pense ou ce que les gens disent qu'ils pensent. Vraiment, elle m'a pas jugée, puis elle m'écoutait, puis elle me disait « c'est correct ». C'est correct, j'entends ce que tu me dis, puis j'entends ce qui s'est passé. Ben, on va gérer la situation. C'est plus facile après de pouvoir tout lui communiquer, puis qu'elle me jugera pas, là. Moi, je pense que c'est un sujet qui est tabou parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'accepter des situations qui n'ont pas de pouvoir là-dessus. Et il y a beaucoup de personnes qui ont de la gêne, de la honte par rapport à ça, de dire, ben, mon enfant est fugué, tu sais, ça peut être mal vu, genre, oh, c'est un délinquant et tout, les préjugés, ça va assez vite aussi. Il y a des personnes qui vont dire, ah, ben là, elle a fugué, c'est sûr qu'elle est en prostitution. C'est vraiment un sujet que c'est difficile à discuter, mais à discuter aussi avec l'entourage, même la famille. Je pense que d'en parler ouvertement pourrait les aider aussi à gérer leur stress, de gérer leur anxiété. Je pense que d'en parler pourrait apaiser le parent et connaître quelqu'un qui vit la même chose, qui a déjà vécu la même chose, puis qui peut l'aider à passer au travers sans se sentir toute seule là-dedans. Là.
J'ai encore des marques de cette période-là. C'est juste que je l'observe dans mon quotidien que mon cheminement a été très différent des autres ou chamboulé, genre à un certain moment. Puis comme que ce manque de stabilité-là qui a duré quand même assez longtemps dans la période où je me développe le plus, au fond, je sens que ça m'affecte aujourd'hui encore. La seule chose qu'un parent peut vraiment faire là-dedans, c'est comment on va l'accompagner dans son parcours. Parce que j'ai juste enterré tout ça. C'était ça ma manière de digérer ça. J'ai juste poussé ça le plus profond de moi. Si la fugue, c'est parce que ça se passe mal à la maison, le seul moyen, je pense, de prévenir ce genre de fugue-là, ça serait de lui faire comprendre que même si ça se passe mal, même si ton enfant te fait chier, lève, lui faire comprendre quand même que c'est aussi sa maison. Puis que il est le bienvenu, mais que vous avez des choses à travailler. On est tellement dans notre bulle, on est tellement sur le moment, sur l'adrénaline, sur la frustration, sur les émotions, qu'on voit pas que l'autre, ça se peut qu'il vive quelque chose d'autre, qui fait en sorte que lui aussi est bloqué à la à la communication puis qui est pas réceptif, peut-être qui vit des choses que t'es pas au courant, tu sais. Souvent, à l'adolescence, on développe cette relation-là, de genre, l'ado se sépare un peu, puis devient super secret, puis les parents sont pas prêts à ça parfois, puis ils se rendent pas compte que ça se peut qu'ils vivent plein d'affaires, puis que tu le sais pas du tout. Puis juste y faire sentir que peu importe ce qu'il vit, genre, t'es là. Peu importe ce qu'il vit, juste ça, ça peut suffire. Juste ça, juste faire comme, « Hey, je sais pas ce que tu vois en ce moment, ça a l'air fucking intense. » Peut-être, peut-être pas, mais genre, je suis là. Même si tu veux pas en parler, je suis là.
À un moment donné, je me suis mise aussi à lui parler à quel point, moi, ça me détruisait de le voir se détruire. Parce que j'ai jamais senti une seconde écart que Théo arrêtait de m'aimer et de m'estimer. Jamais. Même au plus fort de sa consommation, j'ai toujours, toujours senti son amour. C'était embourbé de plein d'inquiétudes, puis de plein de colère, puis de frustration entre nous, mais en dessous de ça, j'ai toujours senti son amour et son respect et son estime. Et je me suis dit, ouvre ton cœur et parle-lui de à quel point ça te fait mal de voir ton fils se faire du mal. Et là, j'ai senti que ça allumait quelque chose.
J'étais épuisé à ce moment-là. Je le savais, mais je voulais prouver à la terre entière que j'étais autonome, puis que j'allais être capable de m'en sortir, puis que tout était beau, puis tout était correct. Finalement, je suis allé finir mon secondaire 5 en Gaspésie. Puis effectivement, à ce moment-là, ça m'a sauvé la vie par le fait aussi que mon père est arrivé dans une ouverture d'esprit que j'avais jamais vue auparavant. Dans l'optique de peu importe ce que tu vas me dire, je serai pas en colère. J'ai envie d'être un parent, mais j'ai envie aussi d'être un confident, puis d'être une ressource, puis d'être un ami, puis de... Tu sais, je pense qu'il est vraiment arrivé là avec une optique de bras ouverts, et ça m'a grandement fait du bien dans mon cheminement.
C'est comme si on s'était aussi entendu comme parent, qu'il y a un cycle pour l'inquiétude, le reproche, puis à un moment donné, faut que, pour sortir de ce cercle vicieux-là, faut se rebrancher sur l'amour. Carrément. Et se rebrancher sur l'amour, ça veut aussi dire prendre des décisions radicales comme on le fait.
Aujourd'hui, je peux rien regretter de tout ce que j'ai pris comme choix dans ma vie par le fait que j'ai la meilleure relation que j'aurais jamais pu espérer aujourd'hui avec mes deux parents. On se parle, c'est des confidents, c'est des meilleurs amis, c'est ceux que j'appelle quand j'ai besoin de conseils, c'est... Ils connaissent maintenant tout sur ma vie, là. Je leur ai tout dit, là. Y a pas de secret, là, je veux dire. Parce qu'ils ont été prêts à l'entendre, parce qu'ils ont été prêts à l'accepter, ils ont été prêts à justement me prendre comme j'étais, puis comme je suis aujourd'hui. Puis effectivement, comme tu dis, l'amour, la confiance, puis la communication que tu peux avoir avec ton enfant, puis avec ton parent, je pense que c'est la plus belle chose que tu peux avoir dans n'importe quelle relation.
Retrouve-moi où l'on s'égare est un balado produit et réalisé dans le cadre du projet de refonte du site jeuneenfugue.ca par le collectif POM pour le CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Consultez le site web pour le détail des ressources dédiées aux fugueurs et à leur entourage. Dans le deuxième épisode, nous entendrons des jeunes et des intervenants expliquer les raisons qui poussent à fuguer et comment des trajectoires parfois chaotiques parviennent à l'apaisement. Recherche, réalisation et montage, Sophie Mangado et Chloé Charbonnier. Musique et conception sonore, Blanche Baillargeon. Prise de son, conception sonore et mixage, Jérémy Roy. Narration, Julie Hamelin.